Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Il faut marcher. Marcher tout seul. C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Marcher. Marcher tout seul. Marcher tout seul.
Bonjour tout le monde. Bienvenue à Nous le futur avec 3 minutes de retard. C'est correct, ça va. On va survivre. Trump a dit « The future is ours ». Ça veut dire « À nous le futur ». Ça ne m'inquiète pas. Je l'ai dit avant lui, 2 ans avant lui. Fait que c'est moi qui gagne. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce titre-là, moi, je voulais l'appeler « La place au futur ». Et dans une manif, je rencontre un étudiant que je connais qui est doctorat en bioinformatique. Il me demande « C'est quoi le titre de ton émission ?» Je dis « Place au futur ». Il dit « Non, tu devrais appeler ça « À nous le futur ». Fait que je l'ai écouté. C'est comme ça que ça s'appelle. Puis il y avait raison, je pense. Alors aujourd'hui, je vais tricoter bien des affaires pour contribuer à réparer le tissu déchiré du monde. Il va y avoir des nouvelles de dernière heure, puis des impressions de quelques livres. Et puis, je vais finir par arriver à d'autres livres pour finir par commencer à la réforme de la démocratie. Et ça va être un focus de la réforme de la démocratie pour le reste des émissions. En gros, c'est-à-dire que je vais parler localement, qu'est-ce que le local peut faire pour aider le local ainsi que l'humanité. Mais peut-être une couple de fois, ça va un peu diverger dans le sens que je vais interviewer une personne qui a traduit un document de Buckminster Fuller qui s'appelle « Le manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre ». Alors, Buckminster Fuller s'adressait à l'humanité. Fait que là, on va parler de l'humanité. Et c'est ça. Puis le reste du temps, ça va être le local via la réforme de la démocratie axée sur l'écriture citoyenne de la Constitution. Car, voyez-vous, il s'est passé une grosse nouvelle il y a une couple de semaines. Le premier ministre du Québec a annoncé que M. Jobin sera ministre des Relations Québec-Fédéral et surtout qu'il aura la responsabilité d'établir une Constitution du Québec, mais lui, il comprend ça comme il va écrire la Constitution du Québec. Fait que s'il continue comme ça, ça va être une écriture antidémocratique parce qu'il sera le seul à le faire. Et normalement, une Constitution, ça devrait refléter la souveraineté populaire. Alors, c'est ce sur quoi je vais me concentrer. Je vais supposer que c'est la souveraineté populaire qui écrit la Constitution et on va simuler le processus constituant au complet. De A à Z, ça veut dire, par exemple, premièrement, c'est le gouvernement qui convoque une assemblée constituante. Deuxièmement, la formation d'une assemblée constituante. Troisièmement, l'assemblée constituante qui consulte le peuple du Québec dans chaque région. Quatrièmement, il y a un rapport de l'assemblée constituante au gouvernement. Et cinquièmement, il y a un référendum pour voir si le peuple accepte ou non la Constitution qu'il leur a écrite. Fait que ça va être à la fin de l'émission, probablement que ça va commencer. Et puis, le reste des autres émissions, ce sera ça. Et lorsque je parlerai, par exemple, de biodiversité, parce que j'ai déjà prévu quelques émissions, là, la biodiversité, mais ça va s'inscrire dans un thème d'une Constitution, dans le thème de les ressources naturelles, par exemple. J'ai déjà parlé d'éducation, mais ça, l'éducation, ça s'insère dans un autre thème, celui des objectifs sociaux, quels soient sociaux qu'on fait. OK. Fait que, pour commencer, je voudrais reparler de Hélène Keller, cette sourde, muette et aveugle, qui a écrit des livres en 1924 à peu près, parce qu'elle a appris à lire et à écrire suite à un contact avec une éducatrice spécialisée, Annie Sullivan, et ça a fait l'objet d'un film dont j'ai parlé la semaine dernière, « Miracle à Alabama ». Fait que finalement, de sourde, muette et aveugle, Hélène Keller a compris l'écriture Et puis, elle est devenue écrivaine et elle a aussi réussi à parler. Alors, dans son livre, My Religion, il y a quelque chose qui m'étonnait et elle dit, là, je traduis en français, là. Nous savons, par exemple, qu'il est possible de faire un système économique dans le monde qui rendrait tout le monde plus riche, libre et joyeux, en procurant du confort et des plaisirs beaucoup plus qu'aujourd'hui même. Alors, elle dit ça, là, en 1924 à peu près. Puis, bien, comme par hasard, bien, c'est ce que je vous dis, surtout c'est le but de cette émission-là, là. Donner une alternative en disant, comme idée de base, que nous avons désormais, surtout grâce à l'influence de Buckminster Fuller, mais ça fait quand même une quarantaine d'années qu'il le dit, fait qu'il y a d'autres personnes qui le suivent, là, que genre la théorie du donut et Loi Laurent, ça j'ai parlé de ça aussi avant, là. La théorie du donut parle d'une zone sûre et juste pour l'humanité à la condition qu'on respecte les limites de la planète, qu'elle appelle le plafond écologique, et qu'on respecte les besoins de base du monde. C'est le plancher social, constitué d'une douzaine de besoins satisfaits. Ça fait que, donc, Mme Keller dit qu'on est capable de faire un système économique qui nous rend plus libres, plus heureux. Fait que en 1924, elle dit ça, et en 1980, bien, Fuller a dit que oui, nous avons désormais tout le savoir pour donner un bon niveau de vie à toute l'humanité, écologiquement et pacifiquement. Et puis ça contredit les dires de Malthus, qui disait que la population grandit à un rythme géométrique, alors que les ressources grandissent à un rythme arithmétique. Fait qu'il y aura toujours plus de monde qu'il y a de ressources. Ce n'est plus vrai, grâce au savoir et à la technologie, puis aussi à la synergie. La synergie étant le tout est plus grand que la somme des parties, ou le tout ne peut être prévu à partir de la connaissance du comportement des parties. OK? Fait que, donc, on a assez pour tout le monde, puis il est temps qu'on se crée une humanité heureuse et riche pour peut-être dire à Mme Keller que vous aviez raison en 1924, on va essayer de faire ça, tu sais, pour vous remercier, parce que vous êtes un symbole des potentiels humains réalisés et des potentiels sociaux et de l'humanité. Fait que, comme nouvelle de dernière heure, j'en ai un paquet, là, c'est... Donc, dans le devoir... On disait qu'une bibliothèque passive, ça chauffe quoi en hiver? Ça veut dire que c'est un bâtiment passif, donc ça coûte un peu plus cher que les bâtiments normaux, mais l'efficacité énergétique est tellement extrême, bonne, que tu n'as presque pas besoin de chauffage pour qu'on soit confortable. L'eau, elle est contrôlée. D'ailleurs, Buckminster Fuller, il avait ce qu'il a inventé, un « fog gun ». Il y avait moyen de prendre une douche avec moins d'un litre, là, avec ce fog gun-là, là. Fait que, donc, vous pouvez aller voir ça dans le devoir, une bibliothèque passive, ça chauffe quoi en hiver? Et d'ailleurs, à Sherbrooke, il y a un bâtiment nouveau qui est en construction, ça s'appelle le Monarque, qui est axé sur, justement, le principe de maison passive, maison solaire passive, avec une très grande efficacité énergétique. Bon, c'est le fun que ça ait lieu. Mais la décision au conseil municipal a fait des grincements parce que presque tout le budget, 8 millions de dollars, est allé en subvention parce que c'est une maison à logement. Et puis d'ailleurs, vous avez entendu parler de moratoire là, sur la construction, là, une grosse nouvelle qui fait frémir les constructeurs, puis en tout cas qui surprend tout le monde. Là, je pense que c'est pendant 2 ans qu'il n'y aura plus de construction à Sherbrooke, parce que les traitements des eaux usées, ça va pas bien. OK. Mais moi, je pense que ça ouvre la voie à remettre en question, justement, la manière dans les villes qu'on traite les eaux usées. J'ai un livre, là, « Natural Capitalism », dont je vais vous parler tout à l'heure. Je ne parlerai pas de ça ce matin, parce que c'est ce matin que j'ai tout ça, là. Mais dans ce livre-là, il parle de nouvelles toilettes, tu sais. Ça date de 2011, là. Puis, moi, je sais que dès l'an 2000, il était question de ça, des nouvelles toilettes dans chaque maison, là, des nouvelles à compost, là, qui sont tellement bonnes. Ça sent rien, là, et ça fait du compost. Et puis, d'ailleurs, tu sais, les astronautes sont allés sur la Lune, qu'est-ce que vous pensez qu'ils faisaient? Il y avait des systèmes de même, là. Alors, peut-être que l'architecture devrait s'adapter puis intégrer des nouvelles toilettes qui n'ont pas besoin d'un réseau d'infrastructures de traitement des eaux usées. Cependant, le gros problème, savez-vous quoi? C'est le syndicat des plombiers et des électriciens. Parce qu'on peut avoir des maisons aussi qui sont autonomes en énergie. Alors, eux, on n'est pas pour les mettre tout en chômage, là. Il faut les respecter, c'est ça. Là. Fait que faut penser aussi à la question de revenus de base, revenus garantis. T'sais. Ça, c'est une question de démocratie économique qui peut entrer dans la Constitution dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, comme autre nouvelle, c'est la Sève ce matin, Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke, qui envoie un courriel à ceux qui ont assisté à la semaine dernière, ce dont je vous parlais aussi. Une réunion de 3 heures pour voir comment la Sève pourrait faire pression pour que la ville fasse la politique de l'arbre à temps, pour qu'elle soit concrète. Là. Fait que je vous avais dit que le MAR avait aidé, le Mouvement d'action régionale en environnement. Et vous pouvez aller voir ce site-là Internet, là, Mouvement d'action régionale en environnement. Et vous allez pouvoir voir... un guide citoyen pour la protection des milieux naturels. Il y a un guide climat aussi pour les municipalités. Et puis, la Sève, A-C-V-S, ça se prononce aussi comme ici, là, C-E-V-E-S, l'Association des étudiants pour le développement durable. Alors, tout à l'heure, je leur ai suggéré qu'il y a une coalition à Sève et Sévès pour une forêt agréable à Sherbrooke. Et puis, aussi, j'ai reçu ce matin de la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie. J'ai parlé à quelqu'un hier là, de ce groupe-là, puis j'ai reçu un document ce matin. La personne responsable des communications me dit « Bon, tel que discuté, voici des informations additionnelles sur l'évolution des projets de l'ASPQ, c'est l'Association Santé publique du Québec. Nous avons lancé la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie, qui avoisine aujourd'hui 55 membres. Je vous laisse parcourir les membres sur notre site Internet. Nous sommes bien accompagnés. Le 1er novembre dernier, lors d'un colloque que nous avons organisé à l'UQAM, le ministre Dubé et la ministre Bélanger ont annoncé vouloir faire de la prévention une priorité avec le lancement de consultations au printemps pour élaborer une véritable stratégie de prévention. Voici le communiqué de presse publié par la coalition. Il y a un petit bruit, là. Ça, c'est des électriciens, je pense, qui vissent des vis, là, puis ça fait un gros bruit. OK. Fait que j'ai pas ce document-là, celui que je vous dis, là, le rapport, le communiqué de presse par la coalition. Mais, cependant, j'ai un plan stratégique de réduction de la maladie qui consiste à réinvestir, à miser sur les données, à gouverner la santé et non la maladie, et à innover en prévention et promotion de la santé. Donc, je vais vous revenir là-dessus, parce que je veux faire à peu près 3-4 émissions sur la santé. D'accord? Bon. À Gaza, l'ONU nous dit que le chef de l'ONU juge l'essentiel d'éviter toute forme de nettoyage ethnique. Ça, c'est aux Nations Unies, là, vous pouvez aller voir ça. Et la Fondation Rivière nous annonce qu'elle a fait un mémoire sur le projet de loi 81, parce que ce projet de loi pense à des changements apportés à la réglementation sur les milieux hydriques. Et Fondation Rivière n'est pas d'accord pour certaines... parce que finalement, le focus n'est pas le bon. Donc, d'accord, allez voir la Fondation Rivière qui a un mémoire à propos de la loi 81. Puis à Sherbrooke, hier soir, il y a eu à Fleurimont... la foire des quartiers, parce qu'il y a une foire des quartiers dans chaque arrondissement, où les gens réfléchissaient pour, disons, faire un quartier adapté à leurs besoins, donner leurs préférences, faire un portrait du quartier, et à quel quartier vous pensez pour demain, à Fleurimont, mais les autres arrondissements aussi, ça se passe. Là. Puis parlez-nous de votre implication dans votre organisme. T'sais. Fait que c'est ça qui se passe. Et puis, l'été prochain, du 17 au 20 juin, il y aura la deuxième école d'été en santé durable. Allez voir ça. Ça peut intéresser quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Et puis, vous savez qu'il y a peut-être 2 semaines déjà, là, à l'Agora, il y a eu un film, c'était en anglais, sous-titré en français, Enquête sur les crimes d'Israël à Gaza. Et puis, une des narratrices du film, c'est une écrivaine, c'est Suzanne Albulhawa. A-B Ulhawa. Donc, j'ai trouvé un livre d'elle à l'université. Peut-être qu'il y en a à l'université, mais il y en a un livre, c'est « La couleur bleue entre ciel et terre », c'est un roman. Et puis, si vous pitonnez d'Internet son nom, Suzanne, S-U-S-O-N, Abul, A-B-U-L-H-A-W-A, elle a des très bons articles et des YouTube pour exprimer l'indicible. Elle dit que le langage est inadéquat pour décrire l'horreur de ce qui a été fait à Gaza. Et elle appelle ça un holocauste. D'accord? Bon. Alors, tiré du livre « Réinventer le feu » de Amory Lovins, un livre que nous avons la chance d'avoir ici à la bibliothèque de la ville de Sherbrooke. C'est 672 pages et c'est 2011 aussi à peu près. Et puis, ce n'est pas malheureusement encore disponible. C'est-à-dire tu sais, que c'est fini, là. Il n'y en a plus de ce livre-là. Là. Fait qu'on est chanceux de l'avoir à la bibliothèque Eva Sénécal. Puis, je vous ai dit que notre émission, ça veut fournir, présenter des alternatives en général à la platitude écologique qui se passe en ce moment, puis la platitude de guerrière. Fait que dans les alternatives, ici, j'ai un bon exemple dans le livre Réinventer le feu. Je l'avais tout à l'heure, j'espère que... OK. Le titre, c'est à la page 540, là. Nous sommes en 2050. Alors là, ils expliquent le scénario qu'on est arrivé. C'est à peu près 6 pages. C'est ce que je vous dis là, depuis quelque temps. Tu sais, les efforts qu'on fait, la société, pour transformer la société, on a des objectifs. T'sais, on veut transformer, on veut arriver à un monde pacifique et écologique et juste pour tout le monde. Et puis, on fait des efforts. On essaye. Mais qu'en est-il du résultat? Supposons que le résultat est atteint. À quoi ça ressemblerait? Alors, ça, c'est ça ici, le livre « Réinventer le feu ». Il y a 6 pages de scénario qui dit « Nous sommes en 2050, voici comment ça se passe ». Alors, pour vous, je vous suggère, là, peut-être que je vais faire des entrevues à un moment donné dans une autre section de cette émission-ci, là, interviewer des gens. Ça serait comment un monde idéal pour vous qui serait atteint? On serait comment là-dedans? À quoi ça ressemblerait? Fait que c'est ça qui est ça. Et puis, il y a un livre qui s'appelle « La force de l'optimisme », c'est de Martin Seligman, un des directeurs de la psychologie positive. Et un autre ancien directeur, c'est Jacques Lecomte. C'est de lui que je m'inspire pour ce qui s'appelle l'opti-réalisme. Parce que dans cette émission-ci, je suis optimiste, mais ça ne m'empêche pas d'être réaliste, de regarder ce qui va mal, tout en voulant que ça aille mieux. Puis là, j'ai un livre qui s'appelle « Et si l'art pouvait changer le monde » de Simon Brault, B-R-A-U-L-T. J'ai déjà eu une chronique « L'art écologique » l'année passée. Fait que c'est pour ça que l'art, ça m'intéresse. Donc, à la page 167, ça s'appelle « Faire face aux plus grands défis de l'humanité ». L'art ne peut pas prétendre changer la vie s'il ne s'intéresse pas à ce qui pourrait le mettre en danger jusqu'à l'enrayer de la surface terrestre. Cela ne veut certainement pas dire que toute la création artistique devrait traiter des enjeux environnementaux. L'art écologique demeure encore marginal dans la production et la diffusion artistique mondiale, même si on retrouve de plus en plus d'œuvres visuelles, littéraires, musicales ou performatives qui véhiculent des propos et des messages relatifs à l'environnement sans pour autant s'inscrire formellement dans le mouvement de l'art écologiste. Et je passe un petit peu plus loin. La diplomatie culturelle à réinventer. La diplomatie culturelle est une composante de la diplomatie publique à laquelle de nombreux États ont recours pour atteindre des objectifs relevant à la fois de leur politique étrangère et de leurs ambitions d'exportation culturelle. Bon, si la grande règle de la démocratie culturelle, de la diplomatie culturelle, sont non écrites, il demeure qu'elle est toujours en danger d'instrumentalisation, ce qui survient quand on force les artistes à devenir des propagandistes au service de leur pays. Fait que c'est un bon livre de réflexion sur l'art, si l'art pouvait changer le monde. T'sais? Fait que c'est intéressant. Vous pouvez aller voir ça. Et puis, ben, c'est déjà rendu au moment de la publicité. Je vous reviens dans un instant. Alors, rebonjour Claude Saint-Jean à nous le futur. Je dis bonjour à mon oiseau Pirlou, qui apparemment écoute ma voix puis il me reconnaît. Fait que c'est grâce à ma compagne qui écoute l'émission aussi. Alors, bonjour Hélène. Fait que Natural Capitalism, tu sais, c'est un livre dont j'ai entendu parler par Fridtjof Capra dans son livre « The System View », où il parlait du facteur 10, dont je vous ai déjà parlé. Le facteur 10, c'est comment arriver à un bien-être pour toute la population avec 90 % de moins de matériaux et d'énergie. Alors, tu sais, c'est possible, ça. Fait que là, il y a Wuppertal Institute, W-U-P-P-E-R-T-O-L, qui s'occupe de ça. Fait que dans le livre « Natural Capitalism », c'est là qu'il parle de ça. Mais je ne vous en parlerai pas ce matin. Je voulais tout simplement vous donner un exemple scandalisant, positivement. C'est l'exemple d'une usine qui polluait de l'eau. Alors là, c'est normal, hein? Toutes les usines polluent. Et puis, William McDonough, qui est un designer, qui a écrit des livres, là, il a tenté... D'abord, il a trouvé que dans une usine, il y avait 8000 polluants toxiques. Et puis, il en a trouvé 37 qui n'étaient pas toxiques sur les 8000. Alors, il a décidé de faire un système dans une industrie normale là, pour filtrer l'eau. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a tellement bien marché que l'eau qui sortait de l'usine était aussi propre que l'eau qui rentrait. Alors, les ingénieurs je pense qu'ils n'étaient pas au courant de cette affaire-là. Là. Les ingénieurs se grattaient la tête. Comment ça se fait que l'eau est aussi propre en sortant de l'usine qu'en y entrant? Ça se peut pas. Nos systèmes de mesure doivent être brisés. Et puis, ils ont vérifié. Puis non, c'est grâce à l'initiative de William McDonough. C'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, la première. On peut faire des usines qui ne polluent plus l'eau. T'sais? Puis moi, j'avais connu l'Union Carbide à Valleyfield qui polluait l'eau. J'avais fait un chapitre pour le conseil de bien-être là-dessus. Là. Puis le directeur était nerveux. T'sais. Mais maintenant, c'est vrai, c'est sûr qu'on peut faire des usines qui ne polluent pas l'eau, à la condition, bien sûr, qu'on donne la bonne nouvelle, qu'on la publie. Puis là, j'ai une autre bonne nouvelle qui vient du Good News Network de cette semaine. J'en ai pris une sur quatre, là, parce que j'en ai quatre par jour. C'est un chef de pompier à Los Angeles qui est allé voir les feux, puis tu sais, il n'y avait plus grand feu. Mais cependant, à la maison de son frère, il y avait le gaz meters, donc c'est pas la sortie de gaz là, de sa maison qui était en feu. Puis il n'y avait rien, comme pompier, il n'y avait rien. Fait que il est allé voir dans le frigidaire de son frère, puis il a trouvé du lait et des bières. Alors, avec le lait et les bières, il a tout versé ça sur le feu. Et puis, ça a marché. Ça l'a éteint, le feu. Voilà, c'est ça qui se passe. Maintenant, dans le livre « La créativité », tout à l'heure, je vous ai dit Hélène Keller qui disait qu'on est capable de faire des systèmes économiques qui rendent tout le monde heureux puis très bien. Là, je voudrais vous parler dans « La créativité », c'est de Mihaly Csikszentmihalyi. La créativité. Il parle de Hazel Anderson. Elle dit que les peuples sont la richesse des nations, voyez-vous. Les ressources de l'écosystème et une population intelligente, efficace et créative, telle est la richesse des nations. Je voulais vous dire ça. Hazel Anderson dans le livre La créativité. Et puis, il y a un livre dont on entend parler, c'est... j'avais écrit le titre, c'est en tout cas L'Amérique est fracturée. Tu sais. C'est un livre récent, là. On dit qu'il y a une crise de la représentation, les Américains face au bouleversement du monde et la jeunesse à la conquête du leadership moral. Il y a un tableau clinique d'un pays en souffrance, c'est l'effroyable bilan du surarmement ordinaire, un environnement alimentaire toxique, un système de santé inégalitaire et défaillant. On dit que l'espérance de vie aux États-Unis est en baisse beaucoup. Et ce sont les dernières classes dans l'OCDE des États-Unis à propos de l'espérance de vie. Puis elle écrit que la violence politique est un symptôme puissant de la situation de péril dans laquelle se trouve la démocratie américaine. que signifie aujourd'hui être américain et qui peut prétendre à cette identité. Donc, l'inquiétude fondamentale quant à la possibilité de vivre ensemble ne mine pas seulement le rêve américain des origines, elle paralyse la capacité des États-Unis à offrir aux citoyens américains l'horizon d'un nouveau destin commun, collectivement partagé et participant aux transformations d'un ordre mondial profondément bouleversé. Alors, Trump se trompe de cible quand que les immigrants dehors et puis le fin d'année, là, ce serait plutôt démilitariser les États-Unis pour qu'il reste de l'argent pour s'occuper de la société civile qui n'a plus d'argent pour guérir les infrastructures. Fait que là, je viens de vous dire que l'espérance de vie a baissé aux États-Unis. Ça me donne l'occasion de vous parler du livre du docteur Christophe de Jaeger qui a écrit « Médecine de la longévité, une révolution » et « Si vivre jusqu'à 50 ans en bonne santé devenait la norme ». C'est le titre que je vous annonce que je vais vous parler de ça un peu plus tard dans d'autres émissions, là. Peut-être dans le cadre de la santé. C'est un Français, j'espère qu'il va venir au Québec à un moment donné, « La médecine de la longévité, une révolution ». Il me reste à vous dire quelques mots de Noam Chomsky à la page 89 de son livre « Une vie de militantisme ». On dit que, tu sais, c'est comme une biographie, là. Chomsky, il avait documenté les bombardements criminels sans précédent que les habitants de la plaine des Jarres avaient subi pendant 6 ans. Au Laos. Et également, Noam Chomsky, il dit que le moment est opportun pour rappeler, suivant Gramsci, la nécessité d'allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Ça résume l'opti-réalisme. Fait qu'en plus d'exacerber le réchauffement planétaire à long terme, un nouvel effort de rupture avec l'héritage honni d'Obama contribuera à 30 000 décès annuels et à la baisse de l'espérance de vie associée à la pollution de l'air aux États-Unis. Le terme « sociopathe » est-il trop fort pour désigner le président des États-Unis? Il parle de Trump, OK, ici. Et puis, il continue aux pages 143, disons, que aux États-Unis, il manque de respirateurs pour les besoins de santé pulmonaire. Et à la page 137, Chomsky dit que nous avons 3 dangers qui menacent la survie de l'humanité. C'est le climat, la guerre, l'action climatique, là, la guerre nucléaire et la démocratie. Fait que voilà, pour Chomsky, ça s'appelle une vie de militantisme. Et puis, on va passer à quelque chose, une petite surprise. Velours, OK? À tantôt. C'était Velours, une nouvelle vedette musicale ces temps-ci, dit-on. Puis il a été interviewé dans une autre émission, peut-être le 16, je crois. Bonjour les filles du 16 et les gars du 9. Et puis, Velours, il va venir à Sherbrooke, je crois que c'est le 12 février, à la Boîte Noire. Et une deuxième surprise, qu'est-ce que c'est? Velours. Alors, merci Velours, c'était Quand je pleure, je suis content. Il dit qu'il freak, oui, c'est ça, c'est vrai, il y a beaucoup de raisons de freaker. Et puis, il y a des raisons aussi de se sentir apaisé. Il y a la méditation qui peut aider. Puis, regardez dehors en ce moment. Il y a une belle petite neige tranquille, apaisante. Ce qui signifie qu'en plus de marcher dans la neige, là, on va avoir un petit réchauffement. Ça va être un peu moins froid. Alors, un petit texte. Bon, ici, tu sais, Vitam, V-I-T-A-M. Il existe des dialogues Vitam. Ce sont des dialogues qui partagent les savoirs sur la santé dans toutes ses dimensions. Alors, si vous allez voir Vitam, V-I-T-A-M, il y a le dialogue Vitam sur les actions climatiques. Et ce dialogue portera sur les actions climatiques et l'équité en santé et les échanges avec les non-panélistes invités nous permettront d'aborder les liens entre les changements climatiques, la santé et l'équité en santé. Puis, les impacts des changements climatiques sur la santé et les inégalités. Donc, ce dialogue-là, il y aura des outils pratiques pour intégrer l'équité en santé dans les stratégies climatiques et ce sera discuté. Puis ils offriront aux participants des moyens d'agir efficacement pour une santé durable et équitable. Donc, allez voir VITAM, V-I-T-A-M. C'est une chaire de recherche de M. Després qui a écrit « La révolution active de la gestion de la maladie à la promotion de la santé ». Et à la fin du livre, il dit que pour une santé durable, ça prend une société durable. Ça veut dire « action climatique contrôlée ». Et ça veut dire, il ne le dit pas, mais à mon avis, ça veut dire aussi construire la paix et démilitariser. Mais ça, on en reparlera. Fait que là, on est rendu pas mal à la réforme de la démocratie. 40, il reste peut-être une 15-20 minutes, là. Mais, tu sais, c'est comme deux auteurs principaux au Québec, là, les premiers qui ont initié ça, c'est André Larocque, qui est ancien professeur à l'ENAP, École nationale d'administration publique, et qui a été sous-ministre dans le gouvernement Lévesque à la réforme des institutions démocratiques. Et son étudiant, Rémieux Bouchard, qui a écrit, je crois, une vingtaine de livres. Et j'en ai un devant moi, c'est « Survivre à l'offensive des riches », et l'autre, c'est « Constituer le Québec ». Un troisième, « Le rêve de Champlain, de Papineau et de Lévesque, un peuple ». Et puis, l'autre livre, c'est « Décentralisons-nous ». Et il a fait un travail pour aider les gens qui veulent faire des ateliers constituants. C'est « Constituer le Québec, citoyen à l'œuvre ». Je vous avais dit que c'est disponible dans mon blog « Manger local sans pétrole ». C'est vrai, 63 pages. Mais ça, ça précédait l'écriture de ces livres. Donc, dans « Survivre à l'offensive des riches », il parle de ça très clairement, là, comment faire un atelier constituant. Et puis, je répète qu'il faut avoir une vision d'ensemble de ça. Ça veut dire que de A à Z, c'est le gouvernement qui convoque une assemblée constituante. Cette assemblée constituante, elle est tirée au sort. Elle consulte le peuple dans toutes les régions du Québec. Elle fait un rapport et il y a un référendum là-dessus. Donc, ça, en gros, c'est ça. Et puis, c'est une écriture citoyenne de la Constitution qui rend hommage à la souveraineté du peuple, qui est donc démocratique. Et dans ce sens-là, elle est, veut dire, infiniment plus démocratique que la voie actuelle de la CAQ, qui par son ministre, Jolin Barrette, veut écrire lui tout seul la Constitution. Alors, c'est pas possible, ça ne marchera pas ça. Il faut que tout le monde écrive la Constitution. Mais il faut qu'on se pratique, qu'on s'entraîne. Et puis, c'est un des buts de cette émission-là. Donc, toutefois, avant de commencer directement là-dessus, puisque Mario Bouchard écrit beaucoup, il n'arrête pas d'écrire, je regarde sa page Facebook assez souvent, à tous les jours. Et puis, j'ai 3-4 articles, je vous lis des extraits qu'il a écrits la semaine dernière, là. Donc, vous savez qu'il y a eu des problèmes d'éolien, là, récemment, fait qu'il écrit un article « Éolien pour qui souffle le vent ». Et d'ailleurs, il a écrit avec beaucoup d'amis un livre complet là-dessus, ça s'appelait justement ça, « Éolien pour qui souffle le vent ». Alors, je vous cite le dernier paragraphe. Même si Hydro-Québec et les organisations municipales et autochtones y ont plus de place, les partenaires privés sont toujours là. Tout le processus reste très peu transparent et les citoyens concernés très peu informés ni consultés. Et surtout, le vrai débat sur notre avenir énergétique et ses finalités est toujours occulté. Entre parenthèses, nous aurons un débat sur l'énergie. Non, c'est pas ça. J'aurai une entrevue bientôt avec quelqu'un de l'ACEF qui propose un débat sur l'énergie. C'est l'avenir du Québec qui est en cause sans qu'on en sache grand-chose. Aucun développement énergétique renouvelable ou non n'est anodin. Alors, ça, c'est dans son article « Éolien pour qui souffle le vent ». Et Rémieux Bouchard, dans un autre article, il propose une loi cadre sur l'intégration nationale. Sauver notre identité ne remplacera jamais le pouvoir de décider. Parce que, justement, c'est un peu ce que M. Legault veut faire. Il parle de l'identité. Une constitution provinciale écrite par les mandarins du gouvernement ne remplacera jamais une constitution du Québec écrite par le peuple québécois. L'indépendance mentale n'est pas la souveraineté politique. On ne veut pas être une province pas comme les autres. On veut être un pays comme les autres, Bourgault. Est-ce la fin du multiculturalisme canadien? Il paraît que beaucoup de Canadiens souhaiteraient que cette loi sur l'intégration nationale s'adresse au Canada entier. Mais faute de pain, on mange de la galette en attendant la prochaine élection. Un autre article de Rémi Bouchard, détricoter la mondialisation économique. Bon, ce à quoi nous assistons présentement sous l'accélérateur Trump, c'est une sorte de détricotage de la mondialisation économique. Je coupe au plus court, là. Trump et les mouvements d'extrême droite marquent le début d'une volonté de revenir au local et de ramener la production chez soi, donc de décricoter ce que la mondialisation a mis en place, y compris nos institutions internationales. Nos supermarchés sont un bel exemple. L'importé y est plus accessible que le local. Donc, on est encore loin, dit Romain Bouchard, de aller en profondeur, décentraliser l'État, redéployer l'activité économique sur le territoire, relocaliser l'économie et la vie sociale, nous réapproprier les technologies numériques, réintroduire les citoyens dans l'exercice démocratique du pouvoir, inventer de nouvelles solidarités, nous réconcilier avec la nature. On est encore loin, et la mer monte rapidement. Le temps presse, et un autre pouvoir obscur nous menace, celui des casquettes, des milliardaires des technologies numériques qui exercent déjà un contrôle perfide sur chacun de nos désirs et chacune de nos actions. Ils ont tricoté silencieusement un autre filet, encore plus raffiné, pour nous mettre tous à leur service, y compris les États, jusqu'à notre extinction. Et Elon Musk prépare déjà l'envol du petit reste vers d'autres planètes. Alors, on parlait aussi dans les nouvelles des oléoducs. Alors, Rémi Bouchard commente. Le fracas des oléoducs est de retour, dit-il, comme si la crise environnementale et climatique n'existait plus. Il fallait s'y attendre. L'appel à l'autosuffisance pour contrer les manœuvres de Trump ouvre la porte aux défenseurs des oléoducs et même de l'extraction du pétrole et du gaz de schiste québécois. Et pour cause, évidemment, le Québec importe son pétrole principalement de l'extérieur du Canada, pendant que le pétrole sale d'Alberta peine à trouver preneur. Donc, Legault, Charest, Joly, Carnet, Poilievre, les chambres de commerce et même notre ineffable ministre de l'Environnement, selon qui l'acceptabilité sociale pouvait bouger, sont déjà prêts à revenir en arrière sur la sortie de la production et du transport des énergies fossiles que les citoyens québécois ont gagné de hautes luttes de ces dernières années, comme si, face à Trump, sortir du pétrole n'était plus une priorité. Alors, sa conclusion, il faut résister. Les dangers sont toujours les mêmes. Heureux de constater que le PQ et QS semblent vouloir se tenir debout sur cet enjeu. Alors, je vous lis un dernier petit article de Romain Bouchard avant de passer à une publicité. C'est dans sa page Facebook. « Le retour des tsars. Il ne faut pas sous-estimer la puissance des mots et des images. Quand on nomme un simple haut fonctionnaire un tsar, c'est qu'on laisse entendre que sa légitimité vient du pouvoir tout-puissant et non plus d'un ministre élu. C'est qu'on est dans la logique du pouvoir autocratique plutôt que du pouvoir démocratique. Ce qu'on revient à la souveraineté du roi désigné par Dieu au détriment de la souveraineté du peuple. » Plus encore que de diversifier et nous réapproprier notre économie, il est essentiel de reconstituer notre démocratie par la base, de rétablir notre souveraineté, ou plutôt la conquérir, en ce qui concerne nous, les Québécois, les Québécoises. Mais le véritable nouveau tsar, ce n'est pas Trump, le FAT, mais son favori Elon Musk, qui a main basse sur les finances de l'État américain, le plus puissant au monde, sans même se faire élire ni désigner ministre. La réponse au tsarisme, deux points, c'est la souveraineté populaire. Alors, dit Romain Bouchard, on passe à la publicité.
Quand je vais être un bon gars.
OK, OK, Richard, merci. Tu es un bon gars. Richard a fait le film Erreur boréale. Il a créé aussi l'Action boréale, un organisme qui vous souhaiterait protéger la forêt boréale en Abitibi. Et j'en suis membre. Et quand il dit « cramper en masse », ça, c'est un mot abitibien. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Cramper, c'est dans ton char. Quand tu tournes la roue bien vite là, pour éviter quelque chose, « m'a crampé en masse ». OK. Fait que 54, il reste une minute. Pour vous dire, tu sais, à propos de la réforme de la démocratie, je vais vous lire la table des matières du livre « Constituer le Québec ». Donc, premièrement, c'est l'illusion de la démocratie. Et puis ensuite, on se demande voter ou pas voter. Et puis la première piste, avec ou sans parti. Deuxième piste, élection ou tirage au sort. Troisième piste, la démocratie directe. Quatrième piste, le principe de proximité. La cinquième piste, une économie citoyenne. Et finalement, la solution clé, c'est l'Assemblée constituante. D'ailleurs, Réinfo-Québec, si vous regardez ça d'Internet, ils ont un texte « Sommes-nous en démocratie? » Et puis, ils offrent des ateliers constituants. Checkez dans Internet, Réinfo-Québec. Et puis, dans son livre « Survivre à l'offensive des riches », on va prendre une minute de plus là, pour lire la table des matières. « L'offensive des riches, nos élus ne nous représentent plus. L'austérité nous saigne à blanc. Les banques nous volent. Le libre-échange nous asservit. Le pétrole nous tient en otage. La planète étouffe. Le Québec nous échappe. Le français fout le camp. Nos ressources sont pillées. Les régions se vident. Les premières nations crient au secours. L'agriculture nous empoisonne. Les religions reviennent en force. Les médias nous lavent le cerveau. Big Brother veille sur nous. » Troisième partie, c'est survivre, prendre conscience du péril de notre servitude, restaurer la démocratie et la souveraineté du peuple, s'affranchir de la croissance économique à tout prix, reconstruire une économie propre et verte. Fait que là, la quatrième partie, c'est la constitution écrite par le peuple. La souveraineté du peuple, l'exercice du pouvoir constituant par le peuple, les 10 commandements de la démocratie, jalons pour une constitution québécoise. Ça, c'est un avant-goût de ce dont je vais vous parler. Dans les prochaines semaines, à propos de les réformes de la démocratie. Puis il y a aussi un guide pour la communauté locale et régionale qui veulent se doter d'une constitution qui existe. Et puis, il y a aussi une charte pour les ressources naturelles. OK, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et si vous avez manqué l'écoute parce que vous aviez un cours ou fallait aller faire l'épicerie, là, rassurez-vous, le balado de l'émission est disponible. Merci beaucoup à CFAQ de faire ça. Je suis très reconnaissant. Salut.